Vous écoutez, on lit pour vous.
Santé mentale, solitude, pauvreté, les jeunes Torontois souffrent. Un texte de Radio-Canada avec les informations de Ryan Patrick Jones de CBC, paru le 14 août 2024 sur Ici Toronto. Les jeunes Torontois souffrent de plus en plus de graves problèmes financiers, de problèmes de santé mentale et d'isolement social, selon la Toronto Foundation, une organisation qui mesure la qualité de vie. Ces tendances croissantes sont aussi beaucoup plus marquées que parmi les autres groupes d'âge. Dans une étude rendue publique mercredi, la Fondation met en relief les énormes défis auxquels font face les 18 à 29 ans alors qu'ils passent de l'adolescence à l'âge adulte. Le rapport dresse un tableau peu reluisant des difficultés auxquelles ces jeunes font face. Hausse du coût de la vie, passage au travail en mode hybride et difficulté à tisser des liens sociaux, même une fois la pandémie terminée. Citation. « La pandémie a vraiment fait ressortir qu'il existait toutes sortes de divisions dans notre société et elle a vraiment exacerbé de nombreux défis qui étaient là auparavant. » Fin de citation, a déclaré Mohamed Huck, directeur de l'impact communautaire à la Toronto Foundation. Citation. La vingtaine est une étape critique du développement d'une personne. Je pense que si nous ne faisons rien pour contrôler cette vague, ça peut avoir un effet très préjudiciable à long terme. Fin de citation, a-t-il ajouté. Le rapport analyse des données provenant de diverses sources, y compris l'étude sur le capital social de Toronto publiée en 2022 et le rapport sur les signes vitaux de 2023. Les deux recherches ont conclu que les résidents de Toronto en général sont moins engagés dans la société, plus isolés et souffrent davantage de problèmes de santé mentale. Les principales conclusions du rapport. 40% des jeunes dans la vingtaine s'inquiétaient de ne pas pouvoir payer leur loyer chaque mois, contre 22% pour les Torontois de 30 ans et plus. Le recours aux banques alimentaires en 2023 est 6 fois plus fréquent qu'en 2019 dans cette tranche d'âge. Parmi les 30 ans et plus, c'est 3 fois plus au cours de la période. 45% ont déclaré que leur santé mentale était passable ou mauvaise l'an passé, contre 33% pour les plus vieux. 44% se sentaient seuls au moins 3 jours par semaine en 2023, comparativement à 31% pour les autres tranches d'âge. Les auteurs ont aussi trouvé qu'il y avait un lien entre le temps passé en ligne et les symptômes de dépression et d'anxiété, mais ils ne savent pas si plus de temps d'écran cause des problèmes de santé mentale ou l'inverse. Station Lett Frédéric, directrice générale de Frontlines Toronto, constate que le nombre de jeunes qui demandent des services et qui participent au programme a doublé entre 2022 et 2023. Son organisation est installée dans le quartier Weston, dans le nord-ouest de Toronto, où les revenus sont peu élevés. Elle voit de plus en plus de jeunes qui ont faim, sont sans abri, chômeurs, déprimés ou même suicidaires. Il y a beaucoup de travail à faire, constate-t-elle. Citation. Pour que la santé mentale des jeunes soit bonne, il faut que leur situation économique soit bonne. Fin de citation, conclut-elle. C'était Santé mentale, solitude, pauvreté, les jeunes Torontois souffrent. Un texte de Radio-Canada avec les informations de Ryan Patrick Jones de CBC, paru le 14 août 2024 sur Ici Toronto.
Des claims miniers sèment l'inquiétude au Kamouraska. Un texte de Sam Harper, paru le 18 juillet 2024 dans Pivot. L'achat récent de permis exclusifs d'exploration minière dans le sous-sol du Kamouraska sème l'inquiétude. Ces claims sont le résultat d'un système minier basé sur le principe du premier arrivé, premier servi, où le prospecteur qui trouve une ressource a le droit de l'exploiter. Ce « free mining » donne une grande liberté aux compagnies minières et laisse très peu d'avenues aux collectivités qui voudraient s'y opposer. Un projet de loi déposé juste avant la fin de la session parlementaire cherche à modifier certaines de ces règles, notamment pour restreindre l'octroi de claims. L'inquiétude était palpable dans la salle municipale du village de Saint-Germain-de-Kamouraska, où une trentaine de personnes s'étaient réunies un dimanche matin du début du mois de juin 2024. La cause de cette inquiétude? L'achat par deux entreprises de claims miniers pour le territoire du Kamouraska, ouvrant donc la possibilité à la prospection et l'extraction minière sur les Kabourons, ces petites montagnes abruptes typiques de cette région du Bas-Saint-Laurent. La réunion était organisée par les Kabourons du Mississippi. Des luttes, cette association en a connu d'autres. L'organisme sans but lucratif est né au début des années 1990 lorsqu'une entreprise, Cantel, avait annoncé qu'elle voulait acquérir le sommet d'une montagne pour y installer une tour de communication cellulaire. La mobilisation citoyenne avait permis à l'association de devenir propriétaire du sommet de la montagne du Mississippi qui longe le rang du même nom. Le but de la société est de protéger et de mettre en valeur cette montagne. Pour Roméo Bouchard, résident de Saint-Germain-de-Kamouraska et l'un des instigateurs de l'organisme, les Kabourons du Mississippi peuvent servir d'exemple et être un laboratoire pour défendre le territoire. Cette fois, les premiers claims ont été achetés en janvier 2024 par une entreprise du nom de Contigo Resources. Les 44 claims couvrent le territoire qui s'étend de la ville de Saint-Pascal au village de Saint-André de Kamouraska. Ceux-ci peuvent être consultés sur la plateforme J'estime du ministère des Ressources naturelles et des forêts. Peu de temps après, en avril 2024, c'est au tour d'une compagnie à numéro d'acquérir des claims sur les montagnes entre Saint-André de Kamouraska et Rivière-du-Loup. À ce jour, aucun travaux exploratoires n'ont été signalés dans la région. Pivot a tenté de contacter les entreprises qui ont acheté ces claims, mais au moment de publier, aucune n'avait retourné nos demandes d'entrevue. C'est quoi un claim minier? Un claim minier, c'est un droit exclusif d'exploration. Ça permet à une compagnie de vérifier la présence de minerais sur un territoire, explique Justine Lalande, doctorante en communication à l'UQAM, dont le travail porte sur la transition écologique. Un claim, c'est une superficie d'à peu près 1,5 km² et ça ne coûte même pas 100 $. On achète ça en ligne, précise-t-elle. Le claim minier est l'héritier de notre système basé sur le free mining. Au Canada, un ou une propriétaire d'une parcelle de terrain n'est propriétaire que de sa surface et non de ce qui est en dessous. Le principe du free mining, c'est une sorte de premier arrivé, premier servi pour l'exploitation des ressources situées sous le sol. Cette pratique a été héritée de la ruée vers l'or de 1840 en Californie, où l'exploitation s'organisait sans intervention de l'État. Dans ce système, une entreprise qui trouve une ressource minière peut l'exploiter. Elle peut aussi acheter un droit exclusif, c'est-à-dire être la seule à avoir le droit d'explorer pour voir si des ressources sont présentes et ensuite, si elles le sont, de les extraire et les vendre. L'exploration, ça coûte cher. C'est long à faire. Un claim, ça ne veut pas du tout dire qu'il va y avoir une mine, nuance Justine Lalande. En effet, avant que l'exploration ne soit effectuée, rien ne garantit que l'entreprise va trouver un filon intéressant. Pour Justine Lalande, la réticence du secteur minier à consulter les populations locales avant d'acheter un claim vient du fait que la réponse à toutes les questions concernant un claim, ça risque d'être « on ne sait pas ». On ne sait pas ce qu'on va trouver. Si on trouve quelque chose, on ne sait pas si on va le développer. On ne sait pas quels seront les impacts. De plus, selon l'industrie, ces consultations peuvent créer des attentes dans les communautés, rapporte la doctorante. Ces attentes peuvent provoquer de la déception lorsque l'exploration ne trouve pas de minerais exploitables et que les redevances attendues ne se matérialisent pas. Mais tout cela ne rassure pas beaucoup pour les populations qui voient des claims apparaître sur leur territoire. Si les compagnies disent « ne vous inquiétez pas », ce ne sont pas elles qui vont vivre le risque au quotidien dans leur cours. Donc, ça passe moins. Cet argument voulant que l'exploration ne veut pas automatiquement dire qu'il y aura une mine ne passait pas du tout auprès des gens réunis à Saint-Germain-de-Kamouraska. « On ne veut pas qu'ils arrivent », a déclaré une résidente. « Une fois qu'ils sont là, il est trop tard. » Vous écoutez, des claims miniers sèment l'inquiétude au Kamouraska. Un texte de Sam Harper, paru le 18 juillet 2024 dans Pivot. Demande croissante et spéculation. Justine Lalande rappelle qu'il y a actuellement une explosion des claims miniers dans le sud du Québec. Ce qu'on appelle la filière batterie et la recherche de minerais pour l'électrification des transports y jouent pour beaucoup. Mais il y a aussi de la spéculation. N'importe qui peut acheter un claim. On n'a pas besoin de montrer qu'on est éthique, qu'on sait quoi faire. On n'est même pas obligé de faire des travaux. On peut juste les accumuler, les renouveler et ne jamais faire de travaux, explique Justine Lalande. La situation au Kamouraska semble bien illustrer cette situation. La première entreprise à avoir acheté des claims, Contigo Resources, est une entreprise basée en Colombie-Britannique qui fait de l'exploration minière. Elle possède actuellement 148 claims actifs au Québec. Son modèle d'affaires consiste à faire de l'exploration, à trouver des gisements miniers prometteurs et à revendre les droits d'exploitation à une autre entreprise par la suite. La deuxième compagnie, 14-18-06-66 Canada Inc., est une entreprise dont le siège social se trouve à Laval. Bien qu'elle soit propriétaire de 466 claims au Québec, nous n'avons pas trouvé d'activité minière associée à cette entreprise ou à ses actionnaires. Selon les données disponibles sur LinkedIn, l'un des actionnaires est comptable. Le deuxième actionnaire a également été impliqué dans le monde de la finance. Un projet pour limiter l'octroi des claims. À la fin du mois de mai, la ministre des Ressources naturelles et des forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a déposé le projet de loi 63, PL 63, pour modifier la loi sur les mines. Ce projet de loi prévoit plusieurs modifications au processus d'octroi d'un claim minier qui serait renommé « droit exclusif d'exploration ». Une première modification serait de limiter l'exploration sur les terres privées. Ces terres, ainsi que celles incluses dans les périmètres d'urbanisation, vont donc a priori être retirées des endroits où on peut acheter un claim. Une municipalité régionale de comté, MRC, pourra faire la demande d'accorder un droit d'exploration ou d'exploitation pour des terres privées sur son territoire. Cela voudrait dire que les Kabourons du Kamouraska, qui sont presque tous situés sur des terres privées, ne pourrait pas faire l'objet de claims à moins d'une demande spéciale de la MRC. Actuellement, le processus est inverse. Une entreprise désirant faire de l'exploration doit simplement demander la permission d'un ou d'une propriétaire pour venir faire des travaux sur son terrain et doit en aviser la municipalité concernée. On peut donc refuser les travaux d'exploration sur son terrain. L'exploration minière, ça peut aller d'un gars tout seul avec sa pelle qui vient donner des coups de pioche, caricature Justine Lalande, à des carottes prélevées avec des machines qui arrivent dans la cour du monde. Le hic, c'est que si les détenteurs d'un claim trouvent une ressource exploitable, il devient très difficile de s'opposer à son exploitation. Comme on n'est propriétaire que de la surface du sol, aucune redevance ne nous est due. La compagnie minière peut ensuite procéder à l'achat ou à l'expropriation du terrain dont elle a besoin. En ce moment, un des seuls recours qu'ont les MRC pour limiter les claims miniers, c'est ce qu'on appelle les TIAM, T-I-A-M, les territoires incompatibles avec l'activité minière, explique Justine Lalande. Un TIAM, au sens de la loi, c'est un territoire dans lequel la viabilité des activités, qu'elles soient urbaines, résidentielles, agricoles, va être compromise par les impacts engendrés par l'activité minière, précise-t-elle. Pour faire connaître un statut de TIAM, il faut que les MRC montent un dossier qui est assez complexe, dit-elle. C'est assez laborieux. Ce processus est coûteux en termes de main-d'œuvre et de temps. Une fois le dossier complété, selon les critères ministériels, la MRC le soumet au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Celui-ci va ensuite évaluer le dossier et donner un avis gouvernemental sur la conformité du projet. Une fois toutes ces étapes passées, la MRC peut adopter son nouveau règlement et protéger certains territoires contre l'activité minière. Pendant l'élaboration du TIAM, une MRC peut demander une suspension de l'octroi de nouveaux claims miniers. Au moment d'écrire ces lignes, la MRC du Kamouraska prévoit déposer un projet de TIAM pour la région. Au mois de mai 2024, elle demandait une suspension de l'octroi de nouveaux claims pour la région pour une période de 6 mois. Rappelons qu'en 2010, la MRC avait adopté un règlement de contrôle intérimaire pour interdire les nouvelles carrières sur les Kabourons. La montagne à moitié creusée, qui est visible de l'autoroute 20, à la hauteur de Saint-Philippe-de-Néry, est le site d'une carrière qui a démarré avant l'adoption du règlement. Obligation d'être qualifié et d'informé. L'autre nouveauté dans le PL63 est la nécessité pour les entreprises désirant acheter des droits exclusifs d'exploration de se qualifier et de montrer qu'elles sont réellement en mesure d'effectuer les travaux d'exploration. En ce moment, comme nous l'avons vu, n'importe qui avec une connexion Internet peut acheter un claim. Dans la nouvelle loi, ça change, explique Justine Lalande. Ils vont exiger des préqualifications pour acheter un claim. De plus, le projet de loi exige aussi que soient tenues des séances d'information avec les municipalités avant le début des travaux d'exploration, ajoute-t-elle. Aucune information sur les visées des entreprises possédant les claims sur les Kabourons du Kamouraska n'a été communiquée aux résidents et résidentes ou aux municipalités de la région. À ce jour, aucune consultation n'est prévue. Cette situation ne serait pas possible avec l'adoption du projet de loi. Pour Justine Lalande, le développement de la filière batterie va forcément faire en sorte qu'il va y avoir plus de conflits sur l'usage des territoires. Le nouveau projet de loi est une belle opportunité de développer un nouveau cadre réglementaire et légal qui respecte les communautés. Les travaux parlementaires reprendront en septembre 2024. Le PL 63 sera étudié et il est très probable que des amendements soient adoptés. L'avenir nous dira si cela permettra de rassurer les citoyens et citoyennes inquiets pour la survie des Caborons. C'était « Des claims miniers sèment l'inquiétude au Kamouraska », un texte de Sam Harper, paru le 18 juillet 2024 dans Pivot.
Petite fiole deviendra bac, un texte de Valérie Simard, paru le 5 août 2024 dans la presse. 1 million de kilogrammes, c'est le poids d'environ 160 éléphants et celui de la quantité de plastique vierge utilisée en 2023 par Plastique GPR pour fabriquer des fioles de médicaments qui sont distribuées en pharmacie. Pour accroître leur circularité, l'entreprise a mis sur pied un projet pilote qu'elle souhaite voir s'étendre à l'échelle du Québec. Les fioles de médicaments sont les seuls objets à usage unique que fabrique Plastique GPR, qui se spécialise dans le moulage par injection. De son usine située à Saint-Félix-de-Valois, dans la Naudière, sortent des pièces utilisées dans les trains, les réacteurs d'avion et les systèmes d'épuration des eaux, ainsi que des bacs de récupération et plusieurs millions de fioles de médicaments par année. Dès le premier jour, on a voulu fabriquer des pièces durables. On ne fait aucun emballage, aucune pièce à usage unique. C'est un filtre à l'entrée chez nous, affirme Gino Belleville, copropriétaire de Plastique GPR. Mais il y a ces millions de fioles, des contenants en polypropylène robuste, qui ont le potentiel d'être réutilisés, mais qui, dans les faits, le sont rarement. Les pharmaciens évoquent des raisons de logistique, de sécurité et d'hygiène depuis la pandémie de COVID-19. Ces pots peuvent certes être déposés dans le bac de récupération, mais en raison de leur petite taille, ils peuvent passer entre les mailles du filet au centre de tri, notamment les bouchons lorsqu'ils sont détachés des contenants. Récupérer ce plastique à la source quand il est propre et non contaminé par d'autres matières, c'est la solution que voit Plastique GPR. Il y a quelques années, le fabricant a lancé un projet pilote de récupération de fioles dans 2 pharmacies de Saint-Félix-de-Valois. Interrompu par la pandémie, l'initiative a été relancée en novembre dernier à la pharmacie Maxime Martineau, affiliée à Familiprix, qui y a vu une façon de répondre à la demande de sa clientèle. Avant la COVID, on réutilisait les fioles pour les médicaments d'un même patient. Maintenant, on doit manipuler le moins possible les choses qui viennent de l'extérieur, nous dit Sarah Sigouin, technicienne en laboratoire et responsable du projet de récupération. Considéré comme une pharmacie à moyen débit, l'établissement sert entre 300 et 500 ordonnances par jour, ce qui représente presque autant de fioles. Depuis le lancement du projet, une quinzaine de fioles sont récoltées en moyenne quotidiennement dans un bac de récupération fabriqué à partir de plastique recyclé provenant de fioles usagées. Cela représente une collecte de 47 kg de plastique annuellement. Si tous les clients rapportaient leurs contenants, on estime qu'environ 1300 kg de plastique pourraient être recyclés. C'est bien peu en comparaison du million de kilogrammes de plastique vierge utilisé par Plastique GPR. Mais pour le fabricant, c'est un premier pas. Un processus simple, mais non sans défi. récupérées chaque mois par un de ses employés, les fioles sont transportées à l'usine pour y être transformées. Le procédé est simple et assez peu énergivore, explique Gino Belleville. C'est purement mécanique. Des broyeurs vont concasser ces pièces en petites granules et après, on vient les transformer de nouveau. Ce plastique ne peut être utilisé dans la fabrication de nouvelles fioles puisque celles-ci doivent provenir d'un matériau certifié. Néanmoins, les débouchés sont nombreux. Selon Gino Belleville, copropriétaire de Plastique GPR, on pourrait faire plein d'autres produits parce que c'est un matériel de très haute qualité à condition qu'il ne soit pas contaminé avec un morceau de journal, de boîte de pizza, un peu de pepperoni. Après un peu plus de 6 mois, le projet est toujours dans sa phase d'expérimentation. Plusieurs défis ont été notés en vue d'un déploiement à plus grande échelle, notamment l'espace restreint en pharmacie pour l'installation d'un bac de récupération, la logistique de transport, le coût du recyclage et l'obligation de confidentialité à laquelle sont tenus les pharmaciens en vertu de la loi 25. Avant de déposer leur fiole dans le bac, les clients doivent donc retirer toute étiquette contenant leurs informations personnelles. On ne veut pas que le nom du patient se retrouve sur le pot qui a été mis dans le bac, parce qu'il n'y a pas moyen de certifier que c'est confidentiel, précise Sarah Sigouin. On se retrouve avec 10 à 15% des pots avec l'étiquette dessus. C'est quand même beaucoup, mais on essaie de conscientiser les gens. Conscient de l'effort demandé aux pharmaciens, M. Belleville estime que leur implication est nécessaire. Il a entamé des discussions avec de grandes enseignes pour voir de quelle façon le projet pourrait être déployé à plus grande échelle et comment le transport des fioles pourrait se faire par l'entremise du réseau de distribution existant. Ce n'est pas un projet qui est viable présentement, dit-il. On a lancé un galet dans l'eau pour voir ce que ça pouvait faire, mais ça nous prend la participation de plus de pharmacies pour qu'on puisse y arriver. De même qu'un éventuel partage des coûts entre les différents acteurs et un plus grand intérêt pour le plastique recyclé. C'était « Petite fiole deviendra bac », un texte de Valérie Simard paru le 5 août 2024 dans la presse.